Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale avec Fineco aujourd'hui en très bonne compagnie qu'on invite avec grand plaisir. Ça fait quelque temps qu'on ne vous avait pas reçu sur la chaîne. Donc Omar qui aujourd'hui va nous parler de la macro. On va essayer de traiter de divers sujets et notamment du côté des métaux précieux qui en ce moment sont vraiment l'attrainte du moment. Également, on parlera des taux courts, des taux longs, les implications vis-à-vis de l'administration Trump face au dollar avec un dollar qui en ce moment est pas mal chahuté, mais peut-être qu'il essaie justement de trouver son point bas et on est sur une année de midterms par rapport à cette élection donc présidentielle des États-Unis. Également pour le côté crypto de la force, pour l'instant on reste à la peine et c'est vrai qu'on essaiera de voir si ça peut avoir justement par effet de vase communicant des implications sur le fait que en ce moment les métaux précieux sont en train de faire office de trou noir et on essaiera de parler un petit peu du Japon et de tous ces sujets qui finalement lie la macro monde et la géopolitique à ce que nous sommes les petites gens d'en bas qui sommes impactés en bout de chaîne par toutes ces implications qu'on ne comprend pas toujours. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comptes comme Fineco aujourd'hui qui décrypte au quotidien très bien ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc super ravi de te retrouver Omar et on va parler de tout ça ensemble.
Hello, ça va?
Écoute, super. Et donc on peut partir du côté des métaux précieux. Quelle est ton impression depuis un an et demi de temps, d'avoir une trend aussi soutenue qui est affichée là à l'écran? Alors aujourd'hui, c'est un échange comme ça qui peut faire office un peu de podcast. On essaiera de vous montrer quelques graphiques à l'écran, mais voilà, c'est plus quelque chose sur lequel on va échanger. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcast, puisque le flux est retransmis directement là-bas. Donc, n'hésitez pas. Donc, quel est ton sentiment Omar, par rapport au fait que on a des métaux comme ça qui sont dans une trend qui est à la fois incroyable et qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Est-ce que derrière toi, de ce que tu as pu justement traiter au niveau de ces sujets-là, les banques centrales des superpuissances continuent d'en accumuler? Comment se comporte finalement le monde face à cette trend qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter du tout en ce moment?
Écoute, moi au départ, quand je commençais un petit peu à regarder les métaux précieux quand on a eu l'inflation en 2022, moi je me disais que bien évidemment ça allait servir un petit peu de couverture. Et en fait, avec le temps, quand on est arrivé avec l'élection de Trump, je me suis dit que derrière, avec l'arrivée de Trump et qu'il souhaitait mettre des droits de douane et réduire le déficit commercial, moi, je me suis dit de mon côté que potentiellement, l'or s'apprécierait pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'on aurait un dollar qui se déprécie. Parce que si tu veux, les métaux précieux dépendent véritablement de deux facteurs. Il y a le premier facteur, c'est l'offre et la demande. Donc là, aujourd'hui, tu l'as bien dit, c'est-à-dire que des banques centrales émergentes très fortes achètent massivement des métaux. Et puis de l'autre côté, tu as le dollar. Et aujourd'hui, le dollar, depuis l'arrivée de Trump, ne cesse de se déprécier. Et il se déprécie aussi pour un élément très important, mais ça, on en reparlera après. C'est parce que d'un côté, ça les arrange par rapport au déficit commercial. Et plus le dollar se déprécie, mieux c'est pour leur déficit commercial qui se réduit. Donc en fait, aujourd'hui, moi, ce qui commence un petit peu à changer de mon côté et qui me fait beaucoup plus réfléchir, c'est-à-dire que, OK, le dollar se déprécie, mais de l'autre côté, on a en tout cas la Banque centrale américaine qui perd de plus en plus en crédibilité. Et de l'autre côté, moi, ce qui me taraude un petit peu, mais on en parle dans le prochain épisode de notre podcast, c'est-à-dire que, en fait, quand on prend un peu une photo globale du dollar, et si tu veux, d'ailleurs, tu peux le mettre en mensuel ou en trimestriel. Mais globalement, de 2008 à 2012, l'or grimpe fortement parce que on sort d'une crise financière où on s'est dit potentiellement que le système financier dans lequel on est en danger. Même si on intervient sur les marchés avec des QE en 2009 et 2012 par la suite, l'or grimpe fort entre 2008 et 2012 parce que on se pose des questions sur le système financier. Donc, on essaie de se couvrir un petit peu contre ça. Et derrière, de 2012 jusqu'à 2020, on a une période vraiment où rien ne se passe, d'accord ? Où vraiment l'or stagne, voire baisse. Et tout ça, c'est parce que depuis 2012, on a lâché entre guillemets les chevaux et on s'est dit on va envoyer la, la planche à billets de partout et ça va soutenir les monnaies, ça va soutenir les marchés, enfin, ça va soutenir les monnaies, façon de parler, mais en clair, ça va soutenir le système financier tel qu'il est et on le sauve. Sauf que depuis 2021-2022, ce qui se passe, c'est que l'inflation est arrivée et elle est arrivée à pleine balle. Et aujourd'hui, on a des déficits qui sont monstrueux, on a des dettes souveraines qui sont monstrueuses, et on a aussi des banques centrales qui réfléchissent un petit peu à leur stratégie parce que les tensions géopolitiques sont de plus en plus importantes. D'accord ? Et tout a commencé, entre guillemets, enfin, tout a commencé. Mais le vrai game changer a été la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que ce qui se passe, c'est que cette fameuse hausse que l'on voit sur les métaux précieux, c'est dû au même problème qu'on a eu entre 2008 et 2012, c'est-à-dire que on se pose des questions sur le système financier dans lequel on est aujourd'hui. D'accord ? Et donc, les banques émergentes essayent un petit peu de sortir de ce système du dollar et de se couvrir un petit peu par rapport à tout ça. Parce qu'on perd de plus en plus confiance au dollar et au système dans lequel on est aujourd'hui. Donc, à un moment donné, personnellement, et c'est ce que je disais d'ailleurs ce matin, je ne sais pas nécessairement où on va aller, mais tout ça, finalement, c'est un petit peu, moi, ce que je qualifie de mon côté d'une espèce de bulle, mais c'est la bulle des banques centrales, c'est-à-dire qu'en fait, cette fameuse bulle-là est aussi due à des banques centrales qui ont complètement déréglé le système financier en injectant massivement des liquidités de partout. Donc aujourd'hui, est-ce que ça va s'arrêter pour l'or et l'argent ? En réalité, c'est très difficile à dire parce que le dollar devrait continuer de se déprécier parce que ça arrange Trump. Et de l'autre côté, la demande dans les métaux précieux style or et argent devrait continuer à être aussi importante, notamment du côté chinois, du côté indien et du côté du Kazakhstan, par exemple. Et tant qu'on n'arrive pas à un moment donné où un seuil va se déclencher, eh bien, ça va être difficile d'arrêter ce train. Donc, je ne suis pas en train de vous dire nécessairement que l'or va aller à 10 000, mais je suis en train de vous dire qu'il y a un vrai changement de paradigme qui se met en place aujourd'hui. Et ce changement-là, à un moment donné, va ressortir. Ça va ressortir dans les médias, etc. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on aura un crack. C'est juste pour vous dire que le monde dans lequel on vit est en train d'évoluer et en tant qu'investisseur, il faut un petit peu se remettre en question et changer un petit peu sa manière d'investir et pas nécessairement penser que tout va monter ensemble.
D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet-là que je pose régulièrement dans les émissions et que je me pose tout court en tant qu'investisseur et qui, il est vrai, est peut-être un peu contre-intuitive. Pourquoi aujourd'hui, hormis le fait que, il est vrai, Bitcoin et les cryptos n'aient pas forcément suivi 2025 l'entièreté des autres marchés qui, la plupart du temps, sont allés chercher des ATH, bien que Bitcoin voilà, était venu chercher les 125 000 et c'était pas rien quand on voit d'où il venait en 2022, on était à 15 500, le bottom. Mais je me suis posé la question, notamment peut-être dû au fait que les taux longs sont hauts aux États-Unis, de pourquoi, en simultané, on avait le risk on qui était porté par l'IA, par la tech et tout ça, ça c'est clair et net, et avec un S&P 500, un Nasdaq qui ont crevé tous les plafonds les uns après les autres. Et en même temps, on joue d'un point de vue un peu plus étatique quelque part, où, comme on disait, les banques centrales, etc., cherchent la stabilité à tout prix et à se réfugier dans des métaux précieux qui eux-mêmes se sont appréciés de façon complètement exponentielle. Donc aujourd'hui, voilà, est-ce que toi, tu aurais une théorie ou une réponse à apporter à ça, bien que peut-être c'est quelque chose d'assez insoluble parfois, de pourquoi à ce point tous les marchés ont augmenté en simultané. Peut-être que tu venais déjà de donner la réponse vis-à-vis de cette liquidité, mais je serais curieux d'avoir ton avis et ton œil d'expertise autour de ça.
En fait, Bitcoin et les marchés crypto ont deux problèmes. Le premier problème, c'est l'IA. C'est-à-dire que tu as dit le mot-clé par rapport à l'IA, c'est la liquidité. Aujourd'hui, et c'est un peu d'ailleurs ce qui fait que les marchés ne baissent pas, ou en tout cas ne chutent pas, c'est que les opérateurs ont massivement dirigé leur liquidité vers l'IA, d'accord ? On sait qu'il y a une révolution en cours et surtout, en fait, on a peur de rater quelque chose sur cette révolution-là. Donc, les opérateurs, donc les investisseurs institutionnels, ont peur de prendre des profits. Ils préfèrent plus, à la limite, de temps en temps, essayer de se couvrir. D'accord ? Donc, pour l'instant, on reste à fond sur l'IA. Et bien évidemment, c'est des liquidités en moins qui pourraient être allouées sur des actifs style crypto et style Bitcoin. L'autre sujet, c'est qu'en fait, le monde, et c'est un petit peu ce que j'avais dit dans un tweet, parce qu'à un moment donné, on m'avait posé la question sur le million de dollars sur Bitcoin, et même sur des targets très élevés sur Bitcoin prochainement. Moi, je disais qu'en fait, le monde, pour moi, il a déjà fait son choix. Et son choix, c'est l'or. C'est les métaux précieux. Et malheureusement, c'est difficile, entre guillemets, à comprendre pour beaucoup de maxi Bitcoin, mais quand on voit des banques émergentes qui choisissent les métaux précieux plutôt que Bitcoin, c'est lourd de sens. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont raison, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je dis en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, les principaux acheteurs qui auraient pu être soit des banques centrales ou des institutionnels ont fait leur choix. Et leur choix, c'est d'une part l'IA, d'autre part les métaux précieux. Et ensuite, l'autre problème, le dernier problème pour Bitcoin, c'est que moi, j'ai l'impression un petit peu aussi que le prix de l'électricité est en train de faire un petit peu défaut au réseau Bitcoin. C'est-à-dire qu'à cause de l'IA, les prix de l'électricité n'arrêtent pas de grimper. Et donc, à un moment donné, il y a des mineurs qui vont voir leur business model un petit peu heurté par tout ça et vont peut-être fermer des machines ou peut-être faire attention à leur rythme de minage. Donc, ils minent de moins en moins. Et c'est un petit peu ce que l'on voit d'ailleurs sur le hash rate finalement qui est en baisse depuis, je crois, depuis septembre ou octobre. Donc, les mineurs vendent. Je pense que c'est un fait. Beaucoup le nient, mais moi, pour moi, les mineurs sont en train de vendre. Et c'est ce qui fait aussi que le prix est assez contenu. Donc, la seule chose qui peut permettre à Bitcoin, pour moi, de revenir sur le devant de la scène, c'est un retour de la liquidité sur Bitcoin, et de deux, une vraie demande de la part des institutionnels. Mais malgré tous les headlines qu'on voit aujourd'hui, toutes les news qui tournent autour de Bitcoin avec Trump, les institutionnels n'ont pas envie d'acheter. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter Bitcoin, c'est juste que je pense, pour moi, que ce n'est pas... Ce n'est pas une période qui est faste pour l'écosystème, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin du cycle. Moi, je ne le pense pas. Et c'est d'ailleurs, en fait, pour vous dire, moi, je ne crois pas à ces histoires de cycle depuis 2020. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs Alexandre Stachenko dans notre podcast, c'est que pour lui, en fait, maintenant, les mineurs ont un rôle un petit peu plus mineur, justement, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est les institutionnels et c'est l'adoption institutionnelle qui va commencer un petit peu à primer pour avoir une influence sur le prix de Bitcoin. Donc, c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui, mais évidemment, tout cela peut changer.
Sur l'aspect, justement, que le marché action, lui, pour sa part, le S&P, le Nasdaq, etc., ont augmenté, tu matérialiserais ça par le fait que ça a été porté essentiellement par quelques sociétés, 10, 20, je crois, sur les 500 qui réalisent l'immense majorité du chiffre d'affaires, si je suis bien le raisonnement.
C'est à peu près ça, dans le sens où, en fait, l'IA est en train de porter les marchés, la concentration sur la tech est énorme, on dépasse les 30%, je pense même qu'on approche les 40% de concentration sur ce type de sur ce secteur. Et de toute façon, tu le vois très clairement dans la composition. Par exemple, il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert. Je pense notamment à la consommation discrétionnaire, donc ce qu'on consomme de manière cyclique, hein, c'est-à-dire des vêtements, des vêtements. Il y a même d'autres types de biens cycliques. Mais par exemple, ce secteur-là, il souffre beaucoup depuis 2022 à cause de l'inflation. Il y a aussi un secteur, tu vois, qui a beaucoup souffert et qui en fait souffrir d'autres, du coup, c'est l'immobilier. L'immobilier a beaucoup souffert depuis la hausse des taux parce que, comme tu l'as dit, les taux longs sont beaucoup plus hauts. Et donc, l'immobilier, par exemple, fait souffrir d'autres secteurs. L'exemple typique que je donne et qui est un excellent secteur, c'est la santé animale, par exemple. Donc, par exemple, la santé animale, tu vois, tu te dis, les gens, ils continuent toujours d'adopter, ils aiment les animaux, ils sont capables de dépenser pour eux, etc. Mais un, ils réfléchissent un petit peu à leur manière de consommer. Donc, ils ne vont pas nécessairement acheter des produits de très grande qualité et donc chers pour leurs animaux. Et de deux, vu que l'immobilier est impacté, eh bien, il y a de moins en moins d'achats de biens. Donc, les ménages ont de moins en moins envie de se projeter et d'adopter des animaux. Donc, en fait, il y a le rythme d'adoption d'animaux, par exemple, s'est ralenti. Et donc, malgré le fait que tu aies des boîtes magnifiques dans le secteur et qui sont résilientes, bah, les valeurs ne font que chuter. L'exemple type, c'est Zoetis, par exemple. Si tu tapes ZTS, tu regardes les bilans et tu regardes un petit peu comment les choses évoluent pour la société, tu te dis que c'est anormal de voir un cours qui chute aussi brutalement, tu vois. Et pourtant, ça n'arrête pas. Et tu peux prendre le cas sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs du secteur. Donc, c'est un petit peu le vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as la tech qui fait monter le marché, qui l'apporte, qui représente aussi une énorme partie de la croissance américaine aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance américaine a beaucoup plus d'impact sur le PIB que la consommation des ménages. Et donc, ça se retranscrit finalement un petit peu sur les marchés financiers, d'où la hausse du S&P.
Oui, donc finalement, on a une économie avec deux rythmes bien distincts. Le rythme de la tech porté par l'IA et les data centers et tout ce qui va bien, puisqu'il y a quand même pas mal de sujets annexes, mais on va pas tous les citer, bien entendu, liés à ce domaine en particulier. Et d'un autre côté, la réalité, l'économie de la réalité, comme j'ai envie de l'appeler, qui est plutôt axée sur le consommateur qui, lui, peut-être a un peu peur du lendemain, a un peu peur du quotidien. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui où tout court, hein, d'un point de vue humain, peu importe le continent sur lequel on se trouve, on se pose quand même pas mal de questions. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que, ben, d'un point de vue global, un peu moins de croissance, un peu moins de confiance mène à une disparité assez importante entre l'économie de demain portée par la super révolution technologique de l'IA et l'économie d'aujourd'hui qui, pour tout à chacun au quotidien, c'est les courses, c'est les animaux, comme tu disais, c'est le lait, les couches pour ceux qui ont des enfants en bas âge et tout ce qui s'ensuit, et la bouffe essentiellement, qui a connu une inflation aussi assez importante au final.
C'est ça. Exactement.
Est-ce qu'on ne partirait pas un petit instant transition comme ça, sans grande transition, sur le Japon par rapport à ce qui se passe, notamment depuis ce fameux Yen Carry Trade. Alors, le Japon, comme je dis souvent aussi sur la chaîne, je ne maîtrise pas du tout la partie asiatique. Je la suis, tu vois, j'ai une petite partie Asie-Chine où j'ai les principaux indices et 2-3 actions comme du Xiaomi, du Nintendo, du Alibaba. Voilà, j'ai les principales, on va dire, mais je suis vraiment un néophyte absolu sur toute la partie asiatique. Par contre, à l'époque, notamment, c'était le 5 août 2024, si je ne dis pas de bêtises, le Yen Carry Trade. Je ne crois pas que c'était 2025 ou alors le temps passe très très vite. Ouais, c'était 24. Ok. Et c'est vrai que c'est là où j'ai l'impression que nous, nobles micro-spéculateurs, on a découvert cette fameuse affaire du Yen Carry Trade. Alors, les plus avisés devaient déjà connaître, pas le subterfuge, mais voilà, ce qui était en train de se passer à ce niveau-là. Notamment ceux qui étaient au fait de cette fameuse, on va dire, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais propension à pouvoir emprunter quasiment à taux zéro du côté du Japon. Et je crois qu'il y a eu des reportages, parce que par la suite, j'ai essayé de me rencarder un petit peu. C'est toujours intéressant de comprendre un petit peu ce qui se passe un peu partout sur la planète. Et donc, il disait qu'il y avait des ménagères au Japon qu'ils appellent des Madame Watanabe, je crois, si je dis toujours
ouais,
pas
c'est ça.
Qui spéculait sur le Forex. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est fou, complètement fou. Et donc, il y avait des ménagères comme ça pendant des années qui, très scolairement, tous les jours, allaient faire leur petit Forex et ramener un petit peu de sous à la maison. Et c'est vrai que quand il y a eu l'explosion de ce sujet du Yen Carry Trade, ce qui m'a permis aussi de rentrer à bon compte des lignes importantes à cette époque, donc le 5 août 2024, on a découvert que ben, peut-être le monde était encore plus en mode casino que ce qu'on le pensait. Et ça a laissé un peu dans l'inconscient collectif, même si ce n'était pas du tout pareil sur la façon dont c'était fagoté, les souvenirs malheureux de 2008, au moment où une crise apparaît comme ça, un peu sortie de nulle part, pour le grand public, parce que ceux qui étaient vraiment en interne, il y en a quand même quelques-uns qui l'ont vu arriver. Pas tous, mais il y en a quelques-uns qui savaient. Et plus la boule grossissait de 2008, plus ils ne pouvaient plus ne pas la voir quelque part. Mais c'est vrai que là, on s'est posé la question au moment du Enquiry Trade de si on n'allait pas de nouveau avoir une explosion en plein vol du système financier comme ça, qui s'était leveraged à mort pendant des lustres et des lustres sur cet argent gratuit quelque part. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est complètement derrière nous ? Est-ce que tu penses que vis-à-vis de ce qui est en train de se passer au Japon, eh bien finalement, on a petit à petit les cadavres qui sortent du placard et le Japon qui est toujours un danger, entre guillemets, vis-à-vis de l'économie mondiale ?
Alors, c'est hyper compliqué de répondre à ça, mais je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, en fait, le carry trade, moi, c'est le premier sujet dont j'ai parlé quand on a créé Fineco avec Martin, c'était de parler du yen carry trade. Donc, c'était en début 2024 qu'on en parlait déjà. Mais le sujet, en fait, c'est que ce yen carry trade existe depuis des années, en fait. Hein. C'est pas nouveau, hein. C'est depuis que les taux sont au plus bas, c'est-à-dire, de mémoire, les taux étaient à zéro, ou en tout cas très très bas au Japon, c'était en 99, je crois. 1999. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis un certain temps. C'est pas nouveau. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui change véritablement, c'est que de 99 jusqu'à 2024-2025, les taux longs japonais étaient au plus bas. Aujourd'hui, le Japon a décidé d'enlever le yield curve control, donc le fait d'acheter de la dette japonaise à partir du moment où l'un des taux longs dépasse un certain seuil qu'ils ont fixé. Et donc, évidemment, on a un peu une normalisation, si tu veux, de la politique, enfin, on a un peu une normalisation des taux japonais. Donc, c'est pour ça que tu as une envolée complètement folle du 30 ans japonais ou ailleurs. Donc, maintenant, la vraie question, et moi, c'est un petit peu ce que je disais dans un tweet, c'est-à-dire que je disais que quand le 10 ans japonais allait arriver vers les 2,5, les marchés allaient se poser des questions parce qu'ils vont se dire, bah, potentiellement, on a de moins en moins intérêt à faire du carry trade. Mais c'est un peu déjà le cas depuis quelques mois, hein, c'est-à-dire que le niveau de carry trade, en tout cas, pas le niveau, mais globalement, la fréquence des carry trade est de moins en moins importante. D'accord ? Il y a des charts qui le prouvent, il y a des données qui le prouvent, et ça continue toujours en ce sens parce qu'en fait, il faut des collatéraux de malade pour faire ce type d'opération. Donc, plus les taux grimpent, moins il y a de carry trade. Mais aujourd'hui, du coup, la question, c'est est-ce que tout ça va s'effondrer ? Moi, sincèrement, en fait, ce qui s'est passé en août, je vais revenir un petit peu là-dessus, hein, en août 2024, ce qui s'est passé, c'était que le Japon, en fait, a fait une erreur de communication. D'accord ? Donc, globalement, le Japon a augmenté les taux en août 2024 de mémoire sans que le marché ne puisse l'anticiper. Donc, derrière, ça a créé un mouvement de panique et on a eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire une baisse des marchés très rapide et une appréciation rapide du yen. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, je pense que beaucoup le sous-estiment, mais la Bank of Japan est de plus en plus prudente dans sa manière de communiquer. Elle communique beaucoup, elle est omniprésente sur le marché, et surtout la force entre guillemets du Japon, c'est qu'elle détient quand même 90% de sa dette. D'accord ? Plus de 50% est détenu par la Bank of Japan, et le reste est détenu par les acteurs domestiques. Donc, même si les taux grimpent, évidemment, le Japon, je ne dis pas qu'il arrivera à s'en sortir, mais globalement, il serait moins dans la merde que si c'était la France, par exemple, qui le faisait, ou si c'était le Brésil, d'accord, qui était dans cette situation-là, parce que leur dette est détenue à l'étranger en majorité. Donc aujourd'hui, si je dois donner un scénario, moi, je pense qu'en fait, le Japon essaie de gagner du temps. Et ils essaient de gagner du temps parce qu'aujourd'hui, l'inflation est forte. Elle dépasse largement les 3%. Là, je crois qu'on est quasiment à 4% au global. Et de l'autre côté, la croissance est très faible. Et l'autre problématique, et qui s'est insérée aujourd'hui, mais peut-être qui ne sera plus une problématique, c'est la première ministre actuelle, Takaichi. Takaichi, elle a débarqué et en fait, elle a fait comme le UK en 2022, c'est-à-dire qu'elle a dit... je vais réduire des impôts, je vais faire tourner entre guillemets l'économie en injectant bah, des liquidités pour que la croissance revienne, pour que les Japonais aient plus aient de quoi dépenser, etc., etc. Je caricature, mais c'est un peu ça, quoi. Sauf que le marché, il n'est pas bête, il se dit, comment tu as financé tout ça? Sachant que les taux sont de plus en plus élevés et sachant que tu ne fais pas de croissance. Donc, comment est-ce que tu vas financer tout ça? Et le marché, en fait, a réagi un petit peu comme ça. Donc, quand tu prends le 30 ans japonais, tu vois, de mémoire, je crois qu'elle est arrivée en novembre dernier, Takaichi. Si tu regardes le 30 ans japonais, tu tapes 30 GPY. Bah, tu vois que le 30 ans japonais est parti à pleine balle vers le haut. Et en fait, si tu regardes à partir de novembre, le truc est parti à pleine balle depuis novembre, depuis qu'elle est arrivée. Eh bien, on n'a fait que exploser à la hausse et le rythme est devenu de plus en plus effréné. C'est devenu beaucoup plus volatile sur les marchés obligataires japonais. Donc, en fait, le marché mondial est en train de lui dire, écoute, tu veux faire des choses, mais techniquement, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas les sous, tu n'as rien pour le faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a connu un petit peu ces épisodes sur le yen et sur les taux, parce que du coup, tout ce qu'elle est en train d'essayer de faire fait perdre la confiance dans la monnaie japonaise et dans le marché obligataire japonais, d'accord? Aux yeux du monde. Donc, ce qui peut peut-être changer rapidement, c'est que le 8 février, il y a les élections au Japon, des élections anticipées, et potentiellement, elle pourrait perdre et nous quitter. Si elle nous quitte, évidemment, le marché japonais va se détendre et, entre guillemets, on repousse un petit peu l'échéance sur ce qui se passe au Japon. Mais de l'autre côté, si, imaginons, les choses dégénèrent, pour moi, ce qui peut se passer, c'est qu'on pourrait voir la même chose que ce qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'en fait, on a connu exactement la même chose au Royaume-Uni qu'au Japon. C'est-à-dire que Liz Truss était première ministre, elle a débarqué, elle a dit je vais baisser les impôts et je vais faire des interventions pour injecter des liquidités, etc., etc., et relancer la croissance. Sauf qu'elle a fait tout ça avec une inflation à 10%. D'accord? Le marché, pareil, il s'est bien évidemment montré des signes très, très inquiétants et les taux longs anglais ont explosé à la hausse. Et ce qui s'est passé, moi, c'est ce que je pense. Que l'on verrait si un jour on arrive à ce niveau-là, c'était que la Banque d'Angleterre est intervenue en injectant de la liquidité et donc en faisant en fait tourner la planche à billets pour sauver les fonds de pension anglais. Donc c'est et pourtant les médias n'en parlent pas, tu vois. Pourtant, si la Banque d'Angleterre n'avait pas fait ça, je pense vraiment que les Anglais auraient perdu leur retraite rapidement. Donc le Japon, en fait, c'est toujours important à regarder. D'accord? Parce que évidemment, ça a un impact sur la liquidité du marché. Mais aujourd'hui, les Japonais sont assez prudents dans leur communication. Ils essayent de faire les choses doucement. Je pense peut-être qu'ils le font peut-être même trop doucement. Mais globalement, ils tiennent beaucoup le marché au courant de tout ce qu'ils font. Donc, est-ce qu'on aura un épisode du style août 2024? Je vois pas ça maintenant. Par contre, je pense que si la situation économique et obligataire du Japon continue de se dégrader et qu'on voit des taux qui continuent encore et encore et encore et encore de grimper, à un moment donné, on va le payer. Mais pour moi, on en est encore loin.
Ça renforce un peu finalement ces taux longs qui grimpent et même du côté des États-Unis, le sentiment défensif du marché plutôt que on dilapide tous les capitaux, tout et n'importe comment. Au final, hormis ce côté un peu, je sais pas si on peut appeler ça bulle désormais pour les métaux précieux, mais on va dire un super bull run pour les métaux et de l'autre côté, le semblant de début moyen, on ne sait jamais, de bulle d'IA et de tech, eh bien, de l'autre côté, on a l'impression que ça freine un peu des quatre fers et que le monde est dans cet attentisme, en tout cas la finance au sens large du terme, de voir quelle va être la main, tu vois, que va jouer l'adversaire derrière ou comment ça va se passer. On a l'impression que d'un côté, ça accélère, tu vois, pied au plancher, et d'un autre, bon. On regarde quand même, et comme tu disais aussi tout à l'heure, on se couvre énormément. Donc, il y a cette disparité où derrière, bon, il y a peut-être un clash aussi qui arrivera tôt ou tard, mais peut-être qu'on n'y est pas encore tout à fait.
Bah, c'est ça, c'est vraiment une situation d'attentisme. Tu l'as très bien dit. On est aussi en train de changer de président de la Fed. Le marché est en train un petit peu de se demander est-ce qu'on va mettre un président de la Fed qui va complètement flinguer la crédibilité de l'institution et donc faire déprécier encore plus le dollar, ou est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui sera un minimum responsable et qui va faire les choses dans l'ordre et correctement avec une bonne communication et qui va donner de la visibilité au marché. En fait, le vrai sujet, il est là. Donc ça, c'est très important à suivre. Je pense qu'on aura la nomination cette semaine, semaine prochaine, parce que c'est ce qu'a dit Trump et Scott Bessent, mais globalement, le marché attend de voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé, quoi, par le futur président de la Fed. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est un petit peu ce qui se passe autour des midterms, c'est-à-dire que là, ça devient très politique, mais globalement, le côté politique apporte vraiment de l'incertitude pour les marchés, parce que, comme je te l'ai dit, il y a des secteurs qui sont impactés. Tu vois, hier, il y avait une valeur que je regardais et qui s'est pris moins de 10% hier, parce que d'un côté politique, il y a de plus en plus d'incertitudes. S'il faut, il y a des lois qui vont pas passer, il y en a d'autres qui vont passer. Et c'est un petit peu le cas un peu partout, quoi, pour tous les secteurs. Donc aujourd'hui, avec ce risque-là, évidemment, c'est un peu plus difficile pour les marchés de se projeter. Et donc, il y a plus de volatilité, il y a plus de rotation à l'intérieur, en tout cas des marchés, il y a plus de rotation sectorielle. Des fois, il y a des secteurs qui vont performer en une journée, mais faire moins 5 le lendemain. Et ça crée plus de difficultés pour toutes les personnes qui font du DCA sur ETF ou qui sont des investisseurs passifs globalement sur les marchés. Donc, c'est toujours comme ça lors des années de mi-terme. Hein, ce n'est pas choquant. Hein. La stat que je donne toujours et qui est frappante, c'est que le Nasdaq, lors d'une année de mi-terme, fait en moyenne 0% de performance depuis 1950. Donc, ça reste des
Ouais.
stats, évidemment, mais c'est assez parlant.
Je crois que
Donc,
le S&P, c'était quelque chose de l'ordre de 3, alors que les autres années, tu étais à 8 ou 10 ou un truc comme ça. Donc, ouais, c'est
ouais,
vraiment l'année creuse, quoi.
c'est généralement c'est une année creuse parce que l'incertitude politique est vraiment plus forte. Donc les marchés se posent des questions et puis évidemment on est sur des niveaux de valorisation qui sont énormes. Donc l'exigence est plus forte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, mais ça veut juste dire que les marchés sont plus exigeants, sont plus prudents. Ils sont déjà extrêmement exposés au marché parce que le niveau de cash est au plus bas aujourd'hui. Et encore une fois, il y a aussi l'aspect psychologique qui joue, c'est-à-dire que les institutionnels ont peur de rater quelque chose sur l'IA. Et ça peut se comprendre. Donc évidemment, on ne prend pas systématiquement des profits, on reste attentiste, on observe, et en attendant d'avoir des éléments plus forts et qui peuvent apporter une vraie visibilité. Et si, imaginons, la visibilité que l'on aura devient un peu plus négative, à mon avis, le marché, il va partir très vite au sud. Mais aujourd'hui, on est attentiste, comme tu le dis très bien, et pour l'instant, personne n'a envie de sortir de ce marché, mais personne n'a envie d'aller l'amener beaucoup plus haut. Donc, on range toujours dans l'incertitude sur la politique monétaire, un petit peu sur la politique budgétaire, même si la Big Beautiful Bill est en train de faire ses effets et va permettre aux ménages de respirer un petit peu. Et puis aussi, on est dans l'incertitude politique et géopolitique, parce que tu le sais, d'un point de vue géopolitique, la rivalité Chine-États-Unis est au plus fort. Et il faut juste regarder le Venezuela, le Groenland et l'Iran pour le comprendre. Et puis politique, parce qu'on a les midterms, mais que c'est assez indécis et potentiellement, les démocrates peuvent reprendre le pouvoir sur la Chambre des représentants. Donc Trump n'aurait pas le plein pouvoir. Et ça fait réfléchir les marchés.
Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est cette impression un peu de marcher sur des œufs et le tout en ayant des marchés hauts. Donc, comme tu dis, espérons qu'il n'y ait pas l'étincelle ou le grain de sable qui vienne bloquer cette machine-là. Et donc, en termes de dernier sujet, même si on n'en avait pas forcément parlé avant nous, en termes de sujet qu'on aurait pu aborder aujourd'hui, j'étais en train d'y penser là maintenant, peut-être quelques minutes pour clôturer cette émission ensemble qui était vraiment cool, autour de l'Europe, qu'on nous a vendu comme vassal, j'ai envie de dire, ou valet des États-Unis. On nous a dit l'Europe est foutue, voilà, bazardez tout ce que vous avez au niveau de l'Eurostoxx ou des trucs risques comme ça. Et pour autant, quand on regarde le stock 50, on aurait pu prendre le 600 pour ventiler un petit peu plus large, mais finalement, bon, c'est assez représentatif, hein, le 50. On voit que, ben, mis à part bon, la bougie bien salace de avril 2025, mais c'était un peu le monde entier qui a pris cher à ce moment-là, et bien derrière, on est sur une très très belle train dans mensuel pour l'Europe. Donc, est-ce que tu as un petit mot à nous dire en guise de clôture autour de l'Europe?
Ça retranscrit un petit peu un phénomène que l'on a vu depuis l'arrivée de Trump, hein. Et tu peux regarder le graphique, c'est à partir de 2025 que vraiment on a eu une belle hausse et des gros volumes. C'est en réalité le fait que l'argent est en train de revenir à la maison. Aujourd'hui, quand on regarde l'euro-dollar, moi je me rappelle encore, hein, quand on était en début 2025, tout le monde disait qu'on allait chercher la parité, voire qu'on allait aller beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, en fait, on s'en rend compte que le game changer pour l'Europe, il est double. Le premier game changer, c'est l'arrivée du chancelier Merz en Allemagne, qui est arrivé et qui a fait sauter le plafond de la dette allemand. Et donc, du coup, évidemment, il y a de plus en plus d'investissements. C'est des stimulus hyper importants de la part d'un pays fort et qui reste quand même un pays qui a un endettement bien maîtrisé. Donc, même s'il dépense fortement, très, très fortement, eh bien, c'est toujours attractif pour les investisseurs. Surtout quand on est dans une situation où la planche à billets ne tourne pas aux États-Unis et qu'elle ne tourne plus au Japon et qu'elle ne tourne plus au sein de l'Europe. Donc, c'est quelque chose qui attire vraiment les investisseurs. Donc, ça, c'est la première chose et c'est ce qui explique en partie la hausse de l'euro-dollar. Et puis, l'autre élément, évidemment, ça a été le discours de J.D. Vance en février dernier. Enfin, en février, c'était il y a quasiment un an, en février 2025, et qui a fait prendre conscience vraiment à l'Europe bah, qu'elle était seule, mais qu'à un moment donné, il fallait qu'elle prenne son destin en main. Et donc, ça passe par une industrie plus forte, ça passe par des investissements, ça passe par des deals de plus en plus importants. Et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui avec le deal que l'on a eu aujourd'hui avec l'Inde et qui réduit drastiquement les droits de douane entre les deux zones, pardon. Donc finalement, je reste partisan du fait que l'Europe reste quand même une zone avec des pépites à regarder et des belles boîtes. Le seul sujet, évidemment, il est que ce potentiel énorme que la zone a, eh bien évidemment, il est complètement, comment dirais-je, il est quand même assez bridé, entre guillemets, parce que on a des réglementations de plus en plus fortes et puis aussi parce qu'on a globalement des dirigeants qui, je vais être franc, hein, qui n'ont pas le niveau. Donc, pour une von der Leyen, je me pose des questions sur la pertinence d'avoir quelqu'un comme elle à la tête de l'Europe, entre guillemets. Donc, c'est déjà un bon début, c'est des investissements importants, c'est une prise de conscience qui est là. Maintenant, il faut des actes et les marchés attendent de voir ces actes. Et si on voit des actes importants, en tout cas pour la suite, en termes de réglementation, mais aussi en termes de flexibilité pour les investisseurs, eh bien évidemment, je ne peux qu'imaginer que les marchés européens continueront sur leur lancée. Donc, c'est le vrai sujet, encore une fois, aujourd'hui, c'est que l'argent est revenu à la maison. Et c'est le plus important et j'ose espérer qu'il continuera toujours de revenir à la maison pour porter les entreprises européennes.
Eh bien, écoute, ça fait un excellent mot de la fin et c'est plaisant de se dire que peut-être enfin l'Europe s'est réveillée et espérons qu'un jour la France se réveille aussi puisque on sait qu'on a des talents, on a de quoi faire, mais voilà, c'est un peu cet attentisme des marchés qui a l'air d'être retranscrit à ce jour, en tout cas, vis-à-vis du pays dans son entièreté. Merci Omar, c'était super cool pour cet échange donc d'une quarantaine de minutes autour de la macro-finance et de la géopolitique un peu, bien que on reste sur le sujet purement financier plus que géopolitique à proprement parler, mais de comprendre un peu les tenants, les aboutissants, notamment des superpuissances, des monnaies, des métaux, de comment tout ça fonctionne, je pense que ça peut apporter beaucoup de profondeur à notre auditoire et c'est ce qui est l'essentiel. Donc, vous pouvez retrouver Fineco, bien entendu, sur l'ensemble des réseaux, podcasts, YouTube, je crois que vous avez désormais, ainsi que Twitter, où vous êtes très, très actif. Vous postez tous les matins une longue analyse que je ne peux que vous inviter à suivre. Et donc, vous le retrouverez aussi sur Substack et bon nombre d'autres plateformes. Je pense que vous avez tout linké sur le Twitter. Donc, c'est n'hésitez ça. Pas, si vous voulez vous rencarder sur la finance et surtout la macro, c'est le compte à suivre, je pense, aujourd'hui. Et il y a peu de personnes qui vous diront le contraire. Merci, Omar, pour cet échange qui était très constructif. Et on vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.